Bon, bonjour à tous, ça fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je m'appelle Aurélien, si on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance, je serais heureux de faire votre connaissance à la fin de ce temps ensemble. Et le mot a été lâché plusieurs fois, hein, désolé, c'est à chaque fois un dur rappel, mais c'est la réalité de la rentrée. Et qui dit rentrée dit transition. Transition entre l'été, le retour à un rythme peut-être plus routinier, mais aussi plus soutenu. Une transition entre des temps qui étaient plutôt reposants, même si on a eu bien chaud quand même, mais c'était difficile de toujours se reposer la nuit, et des temps qui vont être plus actifs. La rentrée, c'est synonyme de nouvelles perspectives, peut-être nouvelles questions, nouvelles préoccupations. On démarre tous l'année avec cette question. Qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est exactement le bon moment, je crois, pour démarrer ce parcours dans l'Exode. Pourquoi ? Parce que Exode 1 opère une transition. Vous l'avez remarqué, on n'a pas démarré la Bible à la page 1 aujourd'hui. C'est parce que Exode 1 est comme la rentrée. C'est une transition entre le premier livre de la Bible, la Genèse, et tout le reste de la Bible. Et comme à la rentrée, Exode démarre avec des nouvelles perspectives, des nouvelles questions, des nouvelles préoccupations. Verset 8, un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. En fait, Exode ne commence pas avec cette première phrase, voici les noms d'eux, au tout premier verset. Il manque un petit mot, il manque le mot « et ». On dirait plutôt, littéralement, « et voici les noms », qui fait un lien avec ce qui précède la Genèse. Genèse où Dieu avait fait une promesse à Abraham, qui est décédé il y a très 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 longtemps, la promesse d'un peuple, d'un pays et d'une présence, la présence de Dieu. Et pendant longtemps, c'était les vacances d'été. Jacob et ses 12 fils ont prospéré en Égypte sous la protection de ce frère, Joseph. Or, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est la rentrée. Non, pire. Avec la mort de Joseph et le changement de gouvernement, les bons moments sont finis. Les autorités égyptiennes sont devenues pathologiquement nerveuses au sujet de la croissance de ces immigrés et déterminés à y remédier. Que va-t-il se passer ? Alors qu'il avait promis sa présence, Dieu semble si absent du début de l'Exode. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire quand on ne le voit pas ? Est-ce que sa promesse tient toujours ? C'est très pertinent pour nous en cette rentrée. Parfois, on se pose aussi cette question. Que fait Dieu ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire quand on ne le voit pas ? Mais il y a trois réactions, me semble-t-il. Peut-être ça fait longtemps que vous avez jeté l'éponge avec Dieu. Et il n'est pas là, en fait. Heureusement, on trouve toujours des solutions. Il y a la fameuse phrase de la marque à la pomme. Il y a une appli pour ça. Vous avez un pare-brise cassé, une souffrance physique ou même psychologique. Il y a des médecins. Ça, c'est le réflexe. Et c'est un bon réflexe de faire appel à un réparateur de pare-brise, à un médecin. Le problème, c'est que pour beaucoup, plutôt de voir la bonne main de Dieu agissante envers nous au travers d'autres personnes, on se dit que c'est une preuve, oui, que le ciel est bien vide et qu'il n'y a rien à attendre de lui. Dieu ? Je ne le vois pas. Mais si j'en crois Novak Djokovic, Gwyneth Paltrow ou Nathalie Calestrémé, c'est pas toujours notre réaction. En fait, c'est peut-être de moins en moins notre réaction. Face à la complexité du monde, face au mystère, face au pouvoir extraordinaire du corps humain, de plus en plus de personnes avouent, sans complexe, croire en des forces surnaturelles ou des principes ésotériques pour nous aider. Puisque la science et la technique, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas capables de répondre à certaines problématiques. puisqu'on s'impatiente. Et puisque ce que Dieu n'est pas aussi manipulable qu'un flacon d'huile essentielle, qu'est-ce que font certains? Ils choisissent de flirter avec des croyances ancestrales, ésotériques, parfois occultes. Des croyances qui semblaient être, il y a quelque temps, complètement oubliées. Dieu, je m'impatiente. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, je m'impatiente. Dieu, enfin, qu'est-ce qu'on fait tous, croyants ou non, quand nos prières ne sont pas décollées au-delà du plafond? Ben, on doute. Est-ce que Dieu m'aime encore? Ou est-ce qu'il m'a oublié? Il semblait si proche cet été. Et maintenant, il semble si distant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et bien à ce moment, il faut qu'on fasse la balance entre ce que je vois, est-ce que je ressens d'un côté, est-ce que je sais de l'autre côté. La balance entre les apparences, les circonstances et la vérité au sujet de Dieu. C'est ce que Exode 1 et 2 nous invitent à faire. Pourquoi ? Parce que premièrement, les circonstances sont parfois trompeuses. En fait, ce sont les descendants de Jacob, qui s'appellent aussi Israël, les héritiers de la promesse faite à Abraham, qui sont au premier plan dans cette histoire. Et leurs circonstances, je ne sais pas comment vous les décrirez, mais en fait, ce n'est pas l'inflation qui les taraude. Ce n'est pas la rentrée qui les préoccupe, c'est un gouvernement terrifié par leur croissance numérique qui les opprime violemment. Écoutez à nouveau les mots utilisés pour parler de leurs conditions de travail. Corvée, accablée, pénible, haine, soumission, dure, vie amère, lourd, imposition, cruauté. À chaque phrase, à chaque explication, on entend des coups de fouet et des gémissements. Quelles sont les circonstances catastrophiques? Le peuple béni de Dieu fait face à quoi? À une violente répression, à un esclavage abusif et violent. Mais à partir du verset 15, c'est l'angoisse complète. Le régime égyptien devient un régime nazi et décide d'exterminer les premiers-nés garçons des Hébreux. On est tous peinés et choqués par le racisme, l'antisémitisme, le sexisme. Comment réagiriez-vous si demain vous appreniez que le gouvernement promet de l'extermination de tous les garçons d'un groupe ethnique de notre pays? Abusif. Atroce. Répugnant. Abject. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire quand on ne le voit pas? Tu t'engages à la rentrée dans un nouveau projet, nouvelles études, nouveau travail, nouvelle église, nouvelle activité. Une tentation quand on ne voit pas Dieu, c'est essayer de deviner en lisant les signes. Et là, que pourrait déduire un Hébreu de ces circonstances? Ben, je crois que c'est Dieu, il est en train de nous laisser tomber. Dieu, il est en train de nous punir. Attention au danger de lire les signes. Nulle part on lit dans Exode que c'est la faute des Hébreux s'ils sont dans cette situation. En fait, c'est Dieu même qui avait annoncé ce temps-là. Dieu avait annoncé à Abraham en Genèse 15, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai et ils sortiront avec de grandes richesses. » Dieu n'est pas en train de réagir à ce que les descendants d'Abraham auraient fait ou n'auraient pas fait. Cette promesse nous montre un Dieu qui est en action avec un plan précis. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Cette première leçon importante pour nous alors qu'on démarre cette rentrée et qu'on se demande que va-t-il se passer, c'est le peuple de Dieu doit toujours faire attention à ne pas lire les signes. Ne lisez pas les intentions de Dieu dans vos circonstances car elles sont parfois trompeuses. Ce n'est pas karma comme on entend parfois. De même, on est parfois tenté de croire que parce qu'on a prié, Dieu va nous épargner de l'opposition dans un choix qu'on ferait. Mais Dieu a ouvert une porte. Mais derrière la porte, qu'est-ce qu'on voit? C'est difficile. L'interprétation de la porte ouverte pour savoir comment avancer n'est pas une stratégie bonne pour discerner la volonté de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on voit de l'opposition alors qu'on était persuadé d'avoir prié, d'avoir vu une porte ouverte? On se sent mal. On se culpabilise. On se dit que on s'est trompé. Au pire parfois, que Dieu s'est trompé. Est-ce que vous commencez à voir pourquoi il faut faire la balance entre ce que vous voyez, ce que vous ressentez, et ce que vous savez, en ce que je vois, je ressens, et ce que je sais? Les circonstances sont trompeuses, parce qu'on le sache ou non. Ce que Dieu est en train de faire, Dieu est toujours à l'œuvre derrière le rideau de l'histoire. Et c'est notre deuxièmement, Dieu est quand même à l'œuvre. D'abord, regardez, il y a une croissance numérique. Malgré la souffrance et l'opposition, le peuple connaît une explosion démographique. Verset 12. Plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux. Et en fait, ce verset est un écho au verset 7. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays, qui est un écho aussi à un texte dans la Genèse. Genèse 1, 27, le mandat créationnel. Et aussi la promesse faite à Abraham, qui sera le père d'une grande nation. Les murs sont trop étroits. On faut les pousser. Il y a trop de monde. Au verset 17, ensuite, on apprend que les sages-femmes craignent Dieu et décident de faire ce qui est bien en refusant de faire ce qui est mal. Et comment répond Dieu face au courage de ces femmes? Verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Voyez, comme des gouttes d'eau fine lors d'une canicule asséchante. Il y a des indices dans le texte que Dieu, il est bien à l'œuvre. Enfin, au milieu de ce génocide, un petit bébé est sauvé des eaux et transporté sain et sauf. Où ? Dans la maison du tyran. Au cœur de la machination diabolique contre le peuple, Dieu permet à un des siens de s'infiltrer et de grandir sain et sauf. Et pas n'importe qui, c'est Moïse. Un bébé est sauvé. Parfois, un détail insignifiant laisse place à de grandes choses. C'est l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt qui imagine dans son livre « La part de l'autre » ce qui se serait passé si un autre tyran diabolique, Adolf Hitler, avait réussi son concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts de Vienne. Pour lui, il n'y aurait pas eu de Deuxième Guerre mondiale. Comme une porte sur ses gonds, parfois l'histoire pivote sur des moments anodins. Anodins. Un enfant est né, un bébé, est sauvé. Un enfant grandit, protégé, implanté au cœur même de l'opposition. Et c'est là la surprise, je crois, du texte. Je lisais Exode pendant l'été et je dis « Ah, je suis content qu'on fasse Exode. Je connais bien Exode. » Puis après, je me suis dit « Ah mince, mais beaucoup de personnes connaissent bien Exode. » Mais il y a des surprises. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce que l'auteur cherche à nous faire comprendre avec ces deux premiers chapitres? Récapitulons. Il y a des douleurs, il y a des gémissements, il y a des cris, il y a des sages-femmes, il y a un bébé qui passe au travers des eaux pour vivre sain et sauf. De quoi parlent Exode 1 et 2? D'une naissance. Exode, c'est quoi? C'est la naissance. La naissance de la nation d'Israël. C'est le commencement de l'histoire d'un peuple qui va rencontrer son Dieu et vivre avec lui. Quelques cellules se multiplient et produisent un être vivant. 70 personnes entrent en Égypte. Une nation, un peuple. en ressort. Que raconte Exode ? C'est la naissance d'un peuple, le peuple de Dieu. Vous voyez ? Faut pas déduire des choses sur Dieu à partir de ce qu'on voit et ressent. Parfois, derrière les souffrances se cache une bénédiction époustouflante. Dieu, il est en train de faire naître un peuple. Un peuple qui va connaître quoi ? Une grande délivrance, un exode. Regardez ce qui arrive à Moïse. Ses circonstances personnelles, vous pourriez dire, elles sont pourries. Il se rend compte qu'il est hébreu, il veut aider. Et qu'est-ce qui lui arrive ? Il tue un Égyptien et il est méprisé par les siens. Il part vivre une quarantaine d'années en nomade comme berger à des centaines de kilomètres de son peuple. Les circonstances, on pourrait dire, sont pourries. Et que voit-on ? Moïse, celui qui est passé au travers des eaux, il est sorti d'Égypte. Moïse est le premier à expérimenter un exode. Vous voyez ces petits indices ? Oui, on a l'impression que Dieu fait rien. Les circonstances, peut-être tu les décris, sont pourries. Mais la promesse de Dieu tient. Oui, l'expérience de souffrance n'a pas d'explication, mais Dieu promet de nous en sortir. Regardez, Moïse connaît le premier, l'Exode. Il sort d'Égypte. Alors je vous pose la question, est-ce que vous voyez le lien avec nous ? Est-ce que vous voyez l'importance pour nous de faire la balance entre ce qu'on voit, ressent et ce qu'on sait ? Faire la balance entre les circonstances et la vérité et se décider à croire. 1500 ans plus tard, un autre homme va connaître un exode. En fait, ce pharaon tyran, il nous fait penser à un autre tyran. Ce génocide, ça nous fait penser à un autre génocide. Cette protection par des femmes courageuses nous fait penser à une autre femme protectrice et courageuse. Cet enfant qui expérimente une sortie d'Égypte, un exode, nous fait penser à un autre enfant qui va connaître une sortie d'Égypte. Est-ce que vous entendez la mélodie ? Est-ce que vous entendez le refrain ? Eh bien, c'est dans le Nouveau Testament qu'on découvre un autre exode qui est effectué par un autre Moïse, Jésus-Christ. Dieu tient toujours promesse, même quand on ne le voit pas. Dieu tient toujours promesse, même quand on ne le voit pas. Trois applications. La première, aucun d'entre nous n'a de certificat d'immunité contre les épreuves et la souffrance. Exode 1 montre clairement que le peuple de Dieu souffre en attendant l'accomplissement de ses promesses. Même quand on ne le voit pas, Dieu est bien à l'œuvre. Mystérieusement, c'est 400 ans d'attente. En fait, s'il s'agit d'une gestation, la croissance secrète d'un enfant qui est la nation, le peuple Dieu. Ses voix ne sont pas nos voix. Et tout comme le peuple de Dieu avait la promesse de sortir d'Égypte, d'entrer en terre promise, cette promesse nous est faite à nous aussi, qui suivons le deuxième Moïse, Jésus-Christ, qui nous fait connaître aussi un exode et qui nous amène en terre promise. Un jour aussi, on sortira avec de grandes richesses. Un jour aussi, on connaîtra parfaitement la délivrance. Un jour aussi, tout ce qui serait triste cessera d'être vrai. Quelle merveilleuse promesse pour démarrer cette rentrée. Nos voix ne sont pas nos voix et notre rythme n'est pas son rythme. Regardez, il a fallu 40 ans pour Moïse pour se préparer avant d'effectuer l'exode, pour visualiser le temps qui passe. Voilà, je vais bientôt avoir 40 ans. Il y a quelques années, Chloé et moi avons visité un vignoble en Bourgogne et j'étais frappé par la révélation du responsable de l'exploitation qui disait, en gros, on est revenu aux méthodes des moines cisterciens qui ont développé leur méthode de viticulture au Moyen-Âge. Parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient mieux compris les cycles de la vie de la terre que nous. On est tous comme ça. Dieu, réponds-moi, Dieu, change-moi, j'en ai besoin maintenant. Et on est tenté de mettre des pesticides et des néonicotinoïdes, alors que ça abîme notre terre. Je suis rentré toute l'après-midi. Inspirons-nous de celui qui utilise l'agriculture et les saisons pour illustrer la vie spirituelle. Patience, notre timing n'est pas son timing. Et enfin, prière. Je reprends verset 23 du chapitre 2. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites. Il comprit leur situation. Dieu ne nous oublie jamais. Il se souvient de son alliance. Alors, il ne faut pas l'imaginer comme le père Fouras qui aurait perdu les clés du Fort Boyard. Il se souvient de son alliance, ça veut dire que son plan d'action, son plan continue d'avancer. Et regardez, il écoute les appels et les prières de ceux qui souffrent. De même, il écoute les prières de son peuple quand il se rassemble pour faire appel à lui. On a là ici un puissant encouragement à prier. Dieu fait avancer son plan quand son peuple se met à prier. Dieu a fait avancer en Exode son plan quand son peuple s'est mis à prier. Est-ce que nous aussi, on va le croire? À la rentrée, quand on ne voit pas Dieu, quand on s'impatiente, quand on a un doute, mettons en balance ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qu'on sait. Les circonstances sont trompeuses, mais Dieu tient toujours promesse, même quand on ne le voit pas. Amen.